Affaires sensibles aujourd'hui, vendredi, la fiction qui mêle et entremêle l'histoire vraie et reconstitution, tranche de vie d'une biographie, aujourd'hui Georges Simenon. Un programme proposé par Patrick Liégibel. Notre invité, Pierre Assouline, journaliste, romancier et biographe de Georges Simenon. Affaires sensibles, la fiction, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Laurent Thomas, à la technique aujourd'hui Arnaud Caillet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
D'une fécondité exceptionnelle, Georges Simenon a écrit 193 romans, 158 nouvelles, et il est le troisième auteur de la langue française après Jules Verne et Alexandre Dumas. Fasciné par sa créativité, André Gide, qui entretiendra une correspondance hebdomadaire avec Simenon pendant de longues années, le définit comme un romancier de génie et le plus vraiment romancier que nous ayons dans notre littérature aujourd'hui. Dès l'âge de 12 ans, Simenon décide de consacrer sa vie à l'écriture. Débutant comme journaliste à 16 ans à la Gazette de Liège, il fréquente tous les milieux de la ville, notamment la nuit, et nombre d'inconnus rencontrés serviront de modèle à ses personnages. Habitant en France jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Simenon fait le tour du monde avant de vivre un temps au Canada, puis aux États-Unis. Seul comptent ses deux passions, la littérature et les femmes. Il en fréquentera plus de 10 000, un chiffre revendiqué avec fierté. En 1963, lassé de ses pérégrinations, il s'installe définitivement en Suisse, à Épalinges, au nord de Lausanne, où il vivra jusqu'à sa mort le 4 septembre 1989, à l'âge de 86 ans. Bonjour Patrick Liégibel.
Bonjour Fabrice.
L'auteur Gérard Levoyer.
Oui, auteur de pièces de théâtre, de sketchs, acteur, scénariste, metteur en scène, Gérard Levoyer est un homme orchestre habité par une passion dévorante, celle du théâtre. Plus de 55 pièces écrites et jouées en France, en Suisse, en Belgique, en Angola, mais aussi en Slovénie, en Chine et au Québec. Aussi à l'aise dans les comédies que dans les plus noires fictions, plus de 130 dramatiques radio à son actif témoignent de son imaginaire foisonnant, de sa causticité et de son humanité. Gérard aime les auteurs de romans policiers, il nous avait déjà écrit un Frédéric Dard pour Affaires sensibles. Georges Simenon, L'homme aux 10 000 femmes, de Gérard Levoyer, réalisation Pascal Deux.
France Inter, Affaires sensibles, la fiction.
Nous sommes en 1989, le 4 septembre, très exactement. Georges Simenon, âgé de 86 ans, vit très modestement ses derniers jours dans une maison de Lausanne, au plus près de l'homme nu, comme il dit, cet homme simple et véritable qu'il a toujours traqué et aimé.
Qui est là ? Qui est-ce ?
Bonjour, Georges.
Maigret. Qu'est-ce que tu viens faire ici ?
Ce que tu m'as toujours fait faire.
Mais voilà 15 ans que je t'ai mis à la retraite.
Tu sais bien qu'un flic ne connaît pas le repos.
Je n'ai plus rien pour toi, mon pauvre Jules. Fini, je suis en bout de course. Tu sais que j'ai été opéré d'une tumeur au cerveau.
Je sais.
Tu sais également que ma fille s'est suicidée.
Je sais, Georges. Ta petite Marie-Jo qui avait tant de difficultés à vivre.
C'est sans doute l'épreuve la plus douloureuse qu'un homme puisse supporter. Rester impuissant devant la souffrance de son enfant. Cette torture qui l'a conduite à se donner la mort. Pourquoi, mon Dieu ? Pour quel péché une telle pénitence ?
Je ne crois pas que Dieu ait quelque chose à voir là-dedans.
Qui, alors ?
Georges, tu m'as appris à raisonner avec ton esprit. Tu dois donc pouvoir répondre à cette interrogation.
C'est un mur devant lequel je me trouve sans aucune possibilité de bifurcation. C'est une question sans réponse. Dis-moi ce qui t'amène.
Une question.
Encore ?
Dis-moi, pourquoi m'as-tu fait si chaste alors que toi, tu ne l'étais pas ?
Allons bon. En voilà une question. Je ne sais pas. Pour que tu te concentres mieux sur les enquêtes.
Frédéric Dard n'a pas ce genre de préjugés. Son San Antonio baise tout ce qui bouge.
Dis donc, Jules, pas de ça avec moi. Je n'ai jamais mis de grossièreté dans ta bouche. Et puis, laisse tomber le petit Suisse, tu vas m'énerver.
Tout de même. Pas une maîtresse, pas une aventure, pas un geste déplacé.
J'ai l'impression que tu as la mémoire plus faillible que la mienne. Dois-je te rappeler les nouvelles enquêtes de Maigret? Lorsque tu rencontres cette jeune fille qui veut passer pour une prostituée, déshabille-toi, lui dis-tu en allumant ta pipe.
Oui, mais tu me fais lui tourner le dos.
Avec un petit sourire de gourmet. Et elle, l'ingénue, qu'est-ce qu'elle te demande?
Que je me mette toute nue?
Eh oui, la pauvre gourde, elle ne s'attend pas à ça de ta part. Et tu insistes. Tu lui dis oui, parbleu.
Un piège pour la tester, pour voir jusqu'où ira son mensonge.
N'empêche qu'elle s'exécute. Enfin, elle arracha littéralement la veste de son tailleur, puis son chemisier de soie crème, s'assit pour retirer ses chaussures.
Oui, je sais tout ça. Tu m'as fait voir de la féminité, mais pour le dodo, je n'ai jamais connu que Madame Maigret.
Mon petit Jules, c'est que tu n'étais pas fait pour ça.
Merci bien. À cause de toi, il n'y a aucune différence entre ma sexualité et celle d'Hercule Poirot. Tu sais quoi? Je te déteste.
Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas.
Simenon avait la réputation d'être un séducteur. Plus qu'un séducteur, même un consommateur. Il lui fallait séduire, et parfois, sans s'embarrasser de préambule, il lui arrivait de dire à une femme « Madame, j'aimerais beaucoup faire l'amour avec vous. » Et souvent cela marchait.
Dis-moi, Georges, est-ce vrai cette histoire des 10 000 femmes avec lesquelles tu aurais couché?
Tu as entendu parler de ça? Je l'ai dit un jour à Fellini, qui lui aussi était un grand amateur de femmes. Jeune, j'étais un véritable petit taureau, toujours en ébullition.
D'accord. Mais comment arrives-tu à 10 000?
Quand j'ai dit cela, j'étais déjà âgé. Si tu comptes une période active de 70 ans, cela fait 25 500 jours. Une femme tous les 2 jours et demi? Ouais. On n'est pas loin du compte.
Georges, c'est une boutade.
J'avoue qu'il doit bien y avoir 8 000 prostituées dans le tas. J'avais une habitude, vois-tu. C'était de me payer les soins d'une professionnelle à chaque fois que je posais le mot « fin » sur la dernière page d'un manuscrit.
Incroyable. Moi qui n'ai connu que les charmes de ma bonne Louise...
Je te l'ai faite bonne cuisinière, ce qui n'est pas pour te déplaire.
Ce n'est que dans la blanquette de veau que j'ai trouvé mes plus belles palpitations. Mais, dis-moi, dans cette compilation de femmes, combien y en a-t-il qui ont compté pour toi?
Oh, 3, 4.
Lesquelles?
Celle qui me vient immédiatement à l'esprit. Bizarrement, je ne l'ai jamais aimée. Et elle non plus.
Tu attends que je meure pour quitter l'hôpital et rentrer chez toi. Eh bien, tu vois, je suis encore là. Tu attendras encore un peu.
Mais je suis là, mère.
À quoi peut-il penser en me regardant comme ça? Il ne me dit rien. Et je n'ai pas grand-chose à lui dire non plus.
Pourquoi me regardes-tu comme ça?
Nous sommes parlé si peu souvent.
À quoi penses-tu?
Quel enfant difficile tu étais.
Peut-être aux mêmes choses que moi.
Mon Dieu. Avoir 2 enfants et que ces 2 enfants soient si différents.
Tu me soupçonnais toujours des pires méfaits. Si Christian pleurait, aussitôt tu me demandais...
Qu'est-ce que tu lui as encore fait?
Repenses-tu à cela, mère? à quelques jours de ta mort.
Pourquoi es-tu venu, Georges ?
C'est une phrase terrible que prononce cette femme couchée sur son lit de mort. Pourquoi es-tu venu, Georges ? Pourquoi es-tu venu voir ta mère mourir, sous-entendant qu'elle n'avait pas besoin de dire adieu à son fils, et que par conséquent, lui-même n'aurait pas dû avoir besoin de cet adieu. 3 ans et demi après le décès de cette mère, Simenon écrira cette fameuse lettre à ma mère, dans laquelle il raconte leur vie, si séparée, leurs difficultés à se comprendre, leur silence taiseux, au travers desquels il fallait tout de même lire de l'amour.
C'est seulement maintenant que peut-être je commence à te connaître. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans la même maison que toi, avec toi. Et quand je t'ai quitté pour gagner Paris vers l'âge de 19 ans, tu restais encore pour moi une étrangère.
J'étais fier d'être pauvre. Je n'ai jamais rien demandé à personne.
Ton orgueil de l'humilité.
Je n'ai jamais touché l'argent que tu m'envoyais. Je n'en avais pas besoin.
Tu demandais partout si mes maisons étaient payées, si j'avais beaucoup de dettes, si je ne vivais pas au-dessus de mes moyens. Tu n'as jamais cru que je gagnais ma vie avec mes livres. Pourquoi ?
Mère, ça va ?
Georges, c'est toi ? Oh, je croyais que c'était ton frère.
Christian est mort, mère.
Comme c'est dommage, Georges, que ce soit Christian qui soit mort. Il était si tendre, si affectueux.
Georges, je suis venu te questionner sur les femmes que tu as aimées.
Mais j'ai sans doute aimé ma mère. J'ai voulu l'aimer. Pourquoi son humilité ne m'inspirait qu'indifférence ? Pourquoi surtout, je n'avais pas su me faire aimer ni admirer d'elle ?
Peut-être aussi t'es-tu demandé si toutes ces femmes que tu possédais n'étaient pas une sorte de compensation. Aimer toutes les femmes à défaut d'aimer, et d'être aimé de la plus importante.
Oh, Maigret, laisse tomber la psychanalyse bon marché. Je t'ai créé comme sondeur de l'humanité. Comprendre...
Et ne pas juger, je sais.
À défaut d'être aimé de sa mère, Simenon va se jeter dans les bras des femmes, de toutes les femmes qu'il va croiser. En décembre 1922, son arrivée à Paris lui fait découvrir une vie nocturne trépidante qui va lui inspirer nombre de ses romans. À Montmartre, il croise des artistes, Vlaminck, Picasso, Cocteau, Maurice Chevalier, Fujita surtout, le roi des excentriques, et puis Kiki de Montparnasse. C'est aussi une faune moins respectable qui finira par se retrouver comme personnage de ses intrigues.
Le Paris des années 20 était un véritable lupanar. La fête commençait à 4h du matin, au dôme ou à la coupole. On dansait, on buvait du champagne. Ah, Joséphine. Joséphine Baker. J'étais à la première de la revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées. Le 7 octobre 1925.
Et là, ce que tu remarques avant tout, c'est une croupe.
Pas que ça. Une fille superbe, exubérante, rieuse, des jambes galbées et frénétiques, des seins petits mais ronds et d'une douceur qu'on imagine de satin, des yeux pétillants, un visage mobile, tour à tour, riant, grimaçant, excentrique, mais toujours sensuel. Et cette croupe, une croupe qui rit, oui, oui, qui a la joie de vivre.
Je adore les cocktails, parce qu'on boit so many choses en un seul coup.
Et qu'est-ce que tu aimes d'autre ici ?
Tout ! À Saint-Louis, je n'avais même pas un paire de bas. Tu sais que j'ai connu le peur. Les blancs n'ont jamais été d'accord avec les doigts en accordéon noir. J'ai vu mon quartier brûler. Des centaines de noirs. Comment on dit ? Léchés ?
Lâchés !
Oui ! Lèche, c'est autre chose, plus agréable. Et ma little Sim.
Et toi, tu le fais si bien.
Ah, la liberté. À Paris, je peux embrasser toi sans me faire lâcher. En Amérique, c'est très mal vu, une femme noire et un homme blanc. Pas le droit.
Et là, tu as tous les droits.
Yes! Et c'est très, très good. Kiss me, baby.
En 1925, Simenon n'est pas encore connu, mais il rédige à tour de bras des nouvelles et des contes érotiques qui lui rapportent un peu d'argent. Et ce sont 930 récits qu'il va livrer entre 1925 et 1930 à différents magazines comme Paris Plaisir, Paris Flirt, Froufrou et bien d'autres, ce qui lui permet d'écumer les différents lieux de fête, tout d'abord les bouges malfamées de la rue de Lappe, puis les brasseries de la rue de Provence, du passage Geoffroy jusqu'aux maisons de luxe qui proposent des filles venues du bout du monde. Sa fougue l'amènera à visiter ces bordels jusqu'à 3 fois par jour. L'avantage, disait-il, c'est qu'on peut consommer rapidement, sans avoir à faire de cours fastidieuses et sans se compromettre.
Ben, tu écris, tu publies des romans de gare avec contrat chez Fayard, mais moi, je ne verrai le jour qu'en 1931.
On m'a souvent proposé d'écrire des romans policiers, mais je n'aimais pas ce qui se faisait à l'époque. Et puis, je voulais gagner beaucoup d'argent pour attaquer la vraie littérature. Alors j'abattais des centaines de pages faciles, parfois jusqu'à en avoir la nausée.
Et avec Joséphine, tu n'as pas eu un projet loufoque ?
Pas si loufoque que ça.
Ma petite Joséphine. J'ai une idée.
Oh, Sim, j'adore quand tu brillonnes comme ça.
Tu es devenue la reine de Paris. Tu as des produits à ton nom, des parfums, des poupées, des vêtements. Les gens se bousculent pour t'applaudir.
Tu peux regarder mes fesses. Tu n'es pas jaloux.
Écoute-moi.
Bouh, tu vas me parler business. Et tu sais que je comprendrai rien.
Mais là, tu n'auras rien à faire. On va créer un journal à ton nom. Tu raconteras ta vie avec des anecdotes, tu donneras des conseils de beauté, des recettes de cuisine, tu expliqueras comment tu as appris la danse, tu vois?
Mais je sais pas faire ces choses.
C'est moi qui rédigerai les articles. Tu n'auras pratiquement rien à faire. Juste demander à ton producteur de nous avancer les sous.
Ah, ça, je savoir très bien faire. Il est très, très amoureux de moi.
Non, je m'en fiche.
Et le titre, on mettra quoi?
Josephine Baker's Magazine, avec un grand M comme mondain, mondial, moderne.
Comme amour.
Non, pas vraiment, non.
Oh, quel dommage. Pourtant, en amour, on aime, non?
Simenon se lance avec énergie dans l'élaboration du magazine. Mais à Froufrou, Eugène Merle, le directeur, rêve de lancer un nouveau journal. Et pour créer l'événement, il soumet à Simenon une idée pour le moins originale.
Je parie que ça a un rapport avec moi.
Ah, ça aurait pu, Jules. Laisse-moi t'expliquer. L'idée lumineuse de Merle, c'est de me faire écrire un roman en 3 jours et 3 nuits. Je serai installé dans une cage en verre, en face du Moulin Rouge, pour que tout le monde puisse être témoin de mon travail.
Sensationnel comme idée.
Ce n'est pas tout. Au fur et à mesure que j'écrirai, les feuillets seront présentés au public et mis en page dans Paris Matin, le nouveau journal de Merle.
Voilà un lancement bien orchestré. Je suppose que le salaire est attractif.
En 3 jours, je vais gagner davantage que je ne gagne en une année.
Bien joué. Mais pourquoi ne pas profiter de l'aubaine pour me faire naître ?
Bien sûr, Simenon aurait pu écrire son premier Maigret à cette occasion, mais cette belle occasion n'aura jamais lieu. Les feuilletonistes des différents journaux sont furieux et crient à l'avilissement de la profession. Un écrivain dans une cage de verre, c'est comme un animal au zoo. C'est ça l'image qu'on veut donner d'un écrivain? Ce Simenon se prend donc pour un acrobate, pour s'exhiber ainsi comme à la foire du trône? C'est un tel tollé que Merle retire son projet et que Paris Matin finit par sombrer.
Oh. Pauvre petit Sim, tu n'as pas le cœur trop gros.
Moi ? Pas du tout, j'ai déjà plein d'autres projets. Par exemple, parallèlement à ton magazine, Il faudrait sortir un livre sur tes mémoires.
Mes mémoires? Mais j'ai pas 20 ans.
Et alors? On invente, on enjolive. Tu racontes un beau conte pour faire pleurer dans les chaumières. Tout le monde fait ça. Miss Tinguette, Maurice Chevalier. Il faut faire soupirer les femmes et aguicher les hommes.
Pepito a une autre idée. Il dit à moi acheter un cabaret. Le cabaret Josephine.
Ton Pepito, il m'inspire pas confiance. C'est un gigolo.
Moi, je l'aime beaucoup. Il m'aide avec mon argent.
Il va te le piquer.
Sois pas méchant. Je vais pas danser toute ma vie. Il faut que je mette mon argent dans la pierre. C'est bien un cabaret, non?
Oui, c'est bien. T'as raison. Et pour son lancement, t'as pensé à quoi?
A wedding. Un mariage. Tu imagines? Moi, en mariée, toute belle robe blanche, je coupais le ruban de l'inauguration et la foule qui entre pour boire champagne très cher.
Mais tu veux te marier avec qui?
Ben avec toi, bien sûr. Je te aimais tellement. Tu en fais un drôle de tête.
Simenon n'épousera pas Joséphine Baker et le journal ne verra jamais le jour. Encore inconnu et sans beaucoup d'argent, il dira toujours qu'il ne se sentait pas le courage de devenir Monsieur Baker.
4 fois par jour, par douzaine, des messieurs très amoureux me proposent une vie de reine pour que je me donne à eux. Y'en a qu'un qui a su me plaire. Il est méchant, il n'a pas le sou. Ses histoires ne sont pas claires. Je sais bien, mais je m'en fous. Pour moi, y'a qu'un homme dans Paris seul. J'peux rien y faire, mon cœur est pris par lui. Je crois j'en perds la tête, il est si bête qu'il ne l'a pas compris. Pour moi, y'a qu'un homme dans Paris seul. Je passerai dans un trou de souris pour lui. Chaque jour, je l'adore, bien plus encore. Pour moi, y'a qu'un homme dans Paris, hey, c'est lui.
Après avoir refusé d'épouser Joséphine Baker, Simenon s'embarque avec sa femme Tigy et sa secrétaire maîtresse Boule pour 2 années de navigation à travers les canaux de France, d'Allemagne et de Norvège. Il continue cependant d'écrire à un rythme effréné. Et c'est en 1930 que le premier Maigret fait son apparition. Le succès est immédiat.
Piètre le laiton n'est pourtant pas un fameux titre.
Tu es bien difficile. C'est le nom du personnage principal. Un type recherché par les polices internationales qui débarque à Paris, gare du Nord, et dont on retrouve aussi le cadavre dans les toilettes du train. Avoue que ça démarre fort.
Tu aimais bien les rebondissements à l'époque. Et il y en avait un bon nombre dans ce roman.
C'est vrai. J'étais encore influencé par ce qui s'écrivait.
J'ai jamais aimé la fin.
Quoi ? La confession sur la jetée du port de Fécamp ?
Non. Le suicide de Piètre le laiton.
C'était la seule issue possible ?
Oui, mais il se tire une balle devant moi qui ne fait pas un geste pour l'en empêcher.
Tu te ramollis, Jules. J'ai bien fait de te mettre à la retraite.
Les Maigret vont dès lors s'enchaîner. 19 enquêtes entre 1931 et 1939. Pendant la guerre, il séjourne en Vendée, où la Belgique le charge de venir en aide aux réfugiés de son pays. Le 5 octobre 1945, il s'installe à New York, toujours avec Tigy, qui lui a donné un fils, Marc. Un mois plus tard, il engage une secrétaire bilingue, Denise Ouimet, d'origine canadienne, qui deviendra très vite sa maîtresse, puis sa femme en 1950, et la mère de ses 3 autres enfants.
John, mon premier fils, américain. Puis Pierre. Autre fils, né à Lausanne, lui.
Et au milieu, Marie-Georges, ta seule fille, née le 23 février 1953, à Sharon, dans le Connecticut.
Juste un petit coin de souvenir
Avec du soleil partout.
Oui.
Toi et moi.
Marie-Jo. Ma petite princesse adorée.
Et tout devenait nous.
Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle était le jouet dont je rêvais. Car c'était un jouet. Et je prenais plaisir à l'habiller comme on habille une poupée.
Bien sûr, je m'en souviens, ma chérie. Tout. Je me souviens de tout. Je me souviens, par exemple, de ce jour. Tu devais avoir 7 ou 8 ans.
Nous étions en ville, tous les deux, pour faire quelques courses.
À un moment, tu t'es arrêtée devant la vitrine d'un bijoutier qui exposait des alliances. Pas des bagues, des alliances. Et tu m'as dit...
Tu ne veux pas m'en acheter une?
Mais ce sont des anneaux pour grandes personnes. Il n'y en aura pas à ta taille.
J'en ai choisi une, et le marchand a proposé de la mettre à la mesure de mon doigt.
Ce qu'il a fait le lendemain, que tu étais fière de porter ton anneau d'or.
Le même que le tien.
Tu l'as gardé toute ta vie. Même qu'il a fallu l'agrandir plusieurs fois.
Passe-moi la bague au doigt, Daddy. S'il te plaît.
Ma pauvre enfant. Partie si vite. Si tôt.
Est-ce que tes rapports tumultueux avec Denise, sa mère, ont joué un rôle dans son mal de vivre?
Peut-être. Je ne sais pas tout. Nous buvions beaucoup à l'époque. Et les disputes étaient nombreuses.
Tu as toujours bu?
Oui, c'est vrai. Mais pendant l'adolescence de Marie-Jo, beaucoup plus. Mais si moi je savais garder mon contrôle, Denise, elle, perdait complètement les pédales. Plusieurs fois, elle est allée en cure de désintoxication. J'essayais de sauver la mère de mes enfants, mais un jour, pendant les vacances de Marie-Jo, elle a commis l'irréparable. Un acte totalement abject. Elle lui a proposé une sorte d'initiation qui l'a traumatisée.
Initiation sexuelle?
Oui.
Suite à cet événement dramatique, Marie-Jo ira, elle aussi, faire des séjours dans une clinique de soins et de repos. Ses séjours y seront chaotiques. Parfois, elle fuguera avant d'y retourner de son plein gré. Elle chante, compose des poèmes, parle de sa peur d'avoir peur, d'être mal aimée, de n'avoir pas la force de lutter face à celle qu'elle appelle « Madame Angoisse ». Le 15 mai 1975, Marie-Jo fera une tentative de suicide. Sa difficulté à vivre était trop forte.
Tu es fâchée, Dad?
Mais non. Chère petite idiote.
Je voulais vraiment, tu sais. Cette fois, c'était sérieux. Puis au dernier moment, j'ai senti le besoin d'appeler au secours.
Heureux appel qui me permet de te retrouver vivante.
Et toi? Comment vas-tu? Cela n'a pas été trop dur?
Rien n'est trop dur pour te rejoindre.
Oh, c'est gentil, ça.
En sortant de la chambre, une infirmière m'a glissé une lettre qu'elle avait trouvée sur Marie-Jo. Et qui m'était destinée.
Quand tu recevras cette lettre, dis-toi que je serai enfin tout près de toi, en paix, et sans plus me plaindre. Je serai redevenue ta petite fille, qui bras dessus, s'en allait avec toi dans le soleil. C'est ça la vie, le soleil sur la peau. Je n'ai jamais vraiment su parler à une personne. Maintenant, il faut que j'aie le courage de ma lâcheté de vivre. Je ne veux plus être une charge pour personne.
3 ans plus tard, presque jour pour jour, Marie-Jo téléphone à son père. À la fin de la conversation, elle lui dit
« Je t'aime, Dad. Dis-moi aussi que tu m'aimes. »
« Je t'aime infiniment, ma chérie. » «
Non, je veux que tu me dises « je t'aime » sans plus. » Dis-moi, je t'aime.
Je t'aime.
Elle habitait seule, un appartement passage du Lido. Lieu tout à fait cinématographique. Elle avait acheté une arme, des balles. Elle a mangé un croissant dans un bar.
Elle est montée chez elle. Elle a fermé la porte à clé de l'intérieur. Et elle s'est tuée.
Maintenant, je vais accomplir sa dernière volonté.
Répandre ses cendres dans ton jardin?
Oui. Sous le cèdre du Liban que j'aperçois de mon bureau. Ainsi, je pourrai veiller sur elle jusqu'au moment où j'irai moi-même la rejoindre.
Qu'est-ce que tu fais?
Je goûte ses cendres. Elles sont salées.
Ce sont tes larmes, Georges.
Non. Ce sont les siennes.
Après le décès de sa fille, Simenon rédigera ses mémoires intimes, un énorme pavé de plus de 1000 pages qu'il fera suivre du livre de Marie-Jo dans lequel il regroupe toute la correspondance qu'il a eue avec sa fille, ainsi que ses poèmes et ses chansons. Puis il s'enfoncera lentement dans une sorte de mutité tranquille auprès de Teresa, sa dernière compagne, dont il dira qu'elle représentait le véritable amour, basé sur l'intégration de deux êtres. Le 4 septembre 1989, il s'éteindra comme il le souhaitait, vieux et enfin apaisé, innocent comme un enfant de cœur.
Salut, Georges.
Salut, Jules. J'en ai fini avec toi. Mais toi, tu n'en as pas fini avec moi. Je te laisse avec le cinéma et la télévision. Méfie-toi d'eux.
Repose-toi bien, Georges.
Je vais enfin dormir.
Plus possible qu'on puisse avoir en deux êtres, c'est encore de faire l'amour. Et j'avais faim de la femme et de toutes les femmes. Et je me disais, mais c'est malheureux parce qu'il y en a des quantités que je ne connaîtrais pas, que je ne connaîtrais pas physiquement.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Assouline, journaliste, romancier et biographe de Georges Simenon. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, chroniqueur de radio, quelquefois, notamment sur France Culture. Donc nous restons dans la maison. Romancier, biographe, membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire et responsable du magazine littéraire. Je rappelle également que vous êtes membre de l'Académie Goncourt depuis 2012. Alors vous êtes le spécialiste de Simenon. Votre biographie d'ailleurs est intitulée sobrement Simenon. Biographie, parue chez Julliard en septembre 1992, érudite et passionnante, elle fait autorité. Donc, Simenon, ça rime avec passion pour vous ?
Oh, ça peut rimer avec beaucoup de choses. Fascination, oui, passion, pourquoi pas. Même si l'objet est plus froid que ça, et qu'on n'imagine pas... On imagine la passion de Simenon lui-même, notamment pour les femmes, pour l'écriture, pour beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si on lit de manière passionnée Simenon, parce que c'est un écrivain assez calme.
C'est-à-dire ?
Je veux dire que la lecture qu'il impose est une lecture assez calme. C'est déjà tellement intense ce qui est raconté, que si en plus on y met l'intensité du lecteur, ça fait beaucoup.
Alors, Simenon et les femmes, puisque vous en avez parlé, on ne va pas non pas évacuer ce thème-là, parce qu'il est aussi intéressant et c'est un marqueur de Simenon. Alors on dit l'homme aux 10 000 femmes, donc il y a le côté un peu performance comme ça, qui serait vulgaire si on restait dans la performance, mais c'est quoi ce rapport aux femmes ? Alors pour le coup, passionné, passionnel.
Le rapport de Simenon aux femmes s'explique de la même manière que tout le reste s'explique. Le rapport à l'argent, le rapport à la littérature, aux éditeurs, c'est un tout. Simenon, c'est un tout. Et il se comporte avec les femmes comme avec le reste. Je veux dire par là que si on veut comprendre quelque chose à Simenon, à la fois l'écrivain et l'homme, il faut savoir qu'il est né sous le signe de l'excès. Et que tout dans sa vie a été excessif. Il a gagné énormément d'argent, il en a beaucoup dépensé. Il a écrit 200 livres sous son nom. Un écrivain n'écrit pas 200 romans.
C'est immense.
Ça ne se fait pas. Mais lui, il ne peut pas faire comme tout le monde. Et alors l'homme aux 10 000 femmes, bon, c'est lui qui a lancé ça, hein, ce n'était pas une invention de journaliste. Il a lancé ça en boutade un jour qu'il bavardait avec son ami Fellini, qui était venu lui projeter Casanova, son Casanova, à Lausanne. Et après, il y a eu un entretien qui a été enregistré pour l'Express. Et il parle de femmes, et de Casanova bien sûr, et Simenon, sur un ton badin, dit « Tu sais, Federico, moi, mais des femmes, j'en ai eu 10 000, parce que j'ai compté. » Et il le dit sur un ton même bonhomme, pas du tout un Roland de mécanique. Alors l'autre lui dit « Mais explique, parce que 10 000 quand même, ça paraît un peu bizarre comme chiffre. » Il dit « Bah c'est simple, j'ai commencé à 14 ans et demi, j'en ai à peu près 75, je crois, à l'époque, à raison de deux femmes... ou trois parfois, mais plutôt deux par jour. Voilà, évidemment, après, il fait le détail, et il dit, oui, il y avait ma femme, de l'époque, quelle qu'elle soit, et puis je faisais la sieste tous les jours avec Boule, la cuisinière, qui était une bonne normande, assez jeune, et qui était très bonne vivante, et puis j'allais toujours voir les putes, au moins une fois par jour. Et donc, si on multiplie, voilà. C'est vrai que sur les 10 000, il y a à peu près 9 500 prostituées, ou 9 000 prostituées. Voilà, ça, c'est les comptes à la Simenon. Mais pour lui, quand il parle de la sexualité, c'est du niveau de l'hygiène, c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire à ça.
Alors, avec les femmes, quand même, des malheurs personnels, hein. Sa fille, qui se suicide.
Oui. Alors, il a des divorces qui sont difficiles aussi. Et le suicide de sa fille, Marie-Jo, c'est probablement le moment de sa vie parmi les plus importants. C'est ce qui a accablé sa vieillesse et qui a changé beaucoup de choses pour lui parce que ça a été le moment d'un bilan, un chagrin immense, une culpabilité tout de même, comme n'importe qui. Mais chez lui, excessive, comme tout le reste, à telle enseigne qu'il avait arrêté d'écrire. Il avait reposé la plume de romancier, il avait annoncé qu'il arrêtait d'écrire, et c'était le cas, depuis des années. Et il a repris la plume, uniquement pour écrire des mémoires intimes dans lesquelles il a inclus 300 pages de Marie-Jo, qui sont des chansons, des paroles, des textes divers, des poésies, enfin un peu de tout. C'est un hommage qu'il voulait lui rendre. Mais ce livre qu'il a écrit, ses mémoires, c'est pour elle. Sinon, on n'aurait jamais eu ce livre-là.
Alors, Georges Simenon tient une place considérable dans la littérature française et au-delà, par son rayonnement dans la littérature mondiale. Il a eu des admirateurs aussi prestigieux que différents. Je pense à André Gide, Fellini, vous l'avez dit. Les deux l'ont encensé. Donc c'est quand même deux dimensions, hein, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles aimaient chez Simenon ?
Alors, deux choses très différentes. Hein. Fellini, d'abord, c'est l'amitié, c'est la gratitude, la reconnaissance. En 1955, je crois, Jean Simenon a été président du Festival de Cannes, président du jury. Mm-hmm. C'était une époque où il y avait des écrivains dans le jury. Ça s'est perdu depuis, hélas. Les jurys sont beaucoup moins cultivés. Aujourd'hui, ils prennent des techniciens et des cinéastes. Ils restent entre eux. Mais à l'époque, non seulement il y avait des écrivains, toujours, chaque année, mais parfois il y avait 5 écrivains sur 10 membres du jury, ce qui était énorme. Bref, il était président du jury. Et il a eu le coup de foudre pour la Dolce Vita, alors que le film avait été sifflé par les festivaliers. Et il a imposé la Dolce Vita, il a fait du lobbying dans son jury. Henry Miller, le fameux Henry Miller, l'écrivain américain de Nexus Sexus, par amitié pour lui, en jouant au ping-pong tous les jours avec lui, il a dit « Georges, si tu veux que je vote pour Fellini, je vote pour Fellini ». Et bref, il a retourné le jury, il a vraiment milité pour un film dont le festival ne voulait pas. Et c'est grâce à lui que la Dolce Vita, qui est un vrai chef-d'œuvre,
bien sûr,
a eu la palme du Festival de Cannes. Et Fellini a toujours été d'une gratitude absolue. Et leur amitié est née là. Mais en plus, il l'admirait beaucoup. Il admirait ses romans. Et puis, il s'écrivait énormément. Il y a une correspondance qui a été publiée depuis et qui est passionnante et qui est très, très fournie. Ils se racontent leurs rêves. Mmh. Ah, ils se parlent énormément. Il y a eu, donc, vous avez cité André Gide. Là, c'est autre chose. Parce qu'André Gide, c'est venu tout seul. Hein. C'est-à-dire que quand Simenon a été appelé par Gaston Gallimard au début des années 30 pour entrer dans l'écurie Gallimard, sous le prestigieux label de la NRF, sous la couverture blanche qui avait été celle tout récemment, en 1922, donc 10 ans avant, de Marcel Proust et de tous les autres, Simenon était très flatté. Il a abandonné Maigret. Il l'a abandonné. Pas question de faire entrer Maigret à la NRF. Et il est devenu un écrivain installé. Et l'homme qui, tout de suite, chez Gallimard, s'est occupé de lui, c'est André Gide, parce qu'il a dit, tout de suite, c'est un immense romancier. Il avait une admiration sans borne. Alors, il critiquait tous ses livres, leur correspondance fait plusieurs volumes. Et ce qui était fascinant, c'est que, quand on voit les notes de lecture critiques de Gide, elles sont très critiques et très admiratives. Il le corrige. Et Simenon, lui, il est plus jeune, et puis surtout, pour lui, c'est un grand maître, Gide, qui va être bientôt de son vivant dans la Pléiade,
bien sûr,
en 38-39. Et donc, il est fasciné. Il est fasciné.
Et nous, à l'écoute de cette histoire, on est fascinés aussi. Pierre Asseline, on va se retrouver dans quelques minutes, et on parlera de la littérature de Simenon, de ses personnages, et de la place que tout cela a tenue pour nous tous, et pour des générations, et tiendra encore probablement longtemps.
Le commissaire mène l'enquête. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il se commande une andouillette et positionne ses hommes au comptoir. Maigret est en piste, à lui de jouer. La justice est en marche, les dés sont lancés. Soudain, dans son cerveau embué, jaillissent les prémices d'une idée. Bien sûr, c'est un petit gamet que je vois avec le coulommier. Ce n'est pas tout ça, mais quand faut y aller, il faut y aller. Allez, remettez-nous ça. Ça s'est drôlement rafraîchi, on dirait. Wow, Maigret est en piste, à lui de jouer. La justice est en marche, les dés sont lancés. Si j'ai l'air de me moquer, sachez que j'ai le plus profond respect pour celui qui, dans la même journée, combat le crime et le mauvais rosé. Où Maigret est en piste, à lui de jouer. La justice est en marche, les dés sont lancés. Et le perdant y va de sa tournée. Maigret est en piste, Maigret est en piste. Non, on passait à cette table, mais ceci est réservé.
Pierre Assouline, on a parlé de l'homme Simenon, on va parler de sa littérature. Vous le disiez tout à l'heure, déjà, c'est une littérature presque chirurgicale. Hein. C'est simple, il nous emmène dans des histoires qui, elles, sont forcément formidables, qui peuvent être des dédales, mais l'écriture est extrêmement précise. C'est ça la marque Simenon ?
La marque Simenon, n'importe quel écrivain, vous prenez une page, si vous reconnaissez le style, si vous savez qui a écrit ça sans avoir vu la couverture, c'est qu'il y a une signature, c'est qu'il y a une marque, c'est qu'il y a un univers, et surtout qu'il y a un son. Un écrivain, c'est un son. Le son, Simenon, c'est que quand vous commencez le livre, en quelques lignes, dès le début, avec des phrases d'une simplicité absolue, en apparence, déjà il vous installe dans un univers. Quand on lui demandait « c'est quoi votre style ?» Alors lui, il n'était pas du tout intellectuel, hein, il n'avait pas de théorie, rien de tout ça. Il répondait « mon style, il pleut ». Et c'est vrai que dans une page de Simenon, quand il y a marqué « il pleut », eh bien...
On voit la pluie, on la sent presque.
On sent les pavés mouillés, le clair-obscur, on voit beaucoup de choses. Et pourtant, il a enlevé tous les adjectifs, il n'en a pas rajouté. Il y a quelque chose de magique. C'est là, vous savez, Jean Tardieu disait « la poésie, c'est quand un mot en rencontre un autre pour la première fois ». La poésie de Simenon, si on peut parler ainsi, c'est qu'on a l'impression que certaines phrases, très simples, en rencontrent d'autres pour la première fois, et que cette alchimie fait que, dès la première page, on sait où on est. On sait dans quoi on est, et on fait connaissance avec un personnage qui est un personnage en crise. Quelqu'un qui fuit, qui vient de tuer quelqu'un, qui vient d'être mis au chômage, qui vient d'échapper à un assassinat. Quelqu'un qui est à l'acmé d'une crise terrible et dont on va faire connaissance.
Ça veut dire que pour Simenon, l'écriture est un outil, hein, c'est pas la fin. La fin, c'est nous faire entrer dans un univers, nous raconter des histoires, nous faire évader.
Raconter une histoire, c'est très important.
Et bien sûr. Et donc c'est l'écriture est l'outil de cela. Parce qu'il y a d'autres écrivains pour qui, effectivement, raconter une histoire, nous faire entrer dans un univers, c'est important, mais c'est l'écriture, la religion d'écriture.
Non, là, c'est vraiment ça. C'est de même que son ami Jean Gabin, qui était un très bon Maigret au cinéma, Gabin disait un bon film, c'est trois choses.
Une histoire.
Eh bien, Simenon, c'est la même chose. Mmh. Il dit, c'est d'abord une histoire. Il dit, je suis un artisan qui raconte une histoire. Mais pour la raconter, son outil, c'est l'écriture. Simplement, il n'en fait pas des théories, puisqu'il en est tout à fait incapable.
C'est quoi sa construction culturelle, intellectuelle ? Vous dites, c'est pas un intellectuel. Comment il est construit ?
Alors,
ses influences.
Il a été à Liège, à l'école des frères, dans les écoles chrétiennes. Il en est parti à 16 ans, donc assez tôt, et il s'est fait lui-même. C'est-à-dire qu'à 16 ans, bon, c'est un garçon, un jeune, d'une impétuosité, d'une énergie considérable. Même par la suite. Cette énergie, ça ne s'est jamais démenti. Il y a 16 ans, comme ça, sur le boulevard à Liège, il pousse la porte du rédacteur en chef de la Gazette de Liège, qui est un grand quotidien. Et il lui dit, je veux être journaliste, je veux être reporter. Et on le met aux faits divers. Et pendant 3 ans jusqu'à 20 ans, il va être un très bon reporter de faits divers, parce qu'il a un culot monstre. Ça, c'est assez fascinant. Et dans le même temps, comme sa mère, pour gagner de l'argent, parce qu'ils sont assez pauvres, a fait pension de famille. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers à l'époque à Liège, et il y a beaucoup de Russes. Donc tous les jours, à déjeuner, à dîner, à sa table, il y a des étudiants en médecine qui sont russes et qui lui font connaître et qui lui font lire Dostoïevski, Gogol, Tolstoï. Mais comme c'est un homme de l'excès, il lit tout Dostoïevski, tout Gogol. Ça, c'est sa formation. Par la suite, il va lire encore un petit peu, mais après l'âge de 20 ans, quand il va se mettre à écrire lui-même, Il dira très justement, on ne peut pas écrire des romans et en même temps lire les romans des autres. Parce qu'il y a une concurrence qui se crée et je veux rester dans mon univers.
Il trace sa route, quoi.
Il trace sa route.
Et quelle route, hein, quelle empreinte. Alors justement, cette écriture simple, elle colle parfaitement au personnage, le commissaire Maigret, et on ne va pas réduire Simenon à ça, mais enfin, c'est quand même important.
Oui, mais avant de parler de Maigret, il faut savoir que l'écriture simple, ça repose quand même sur une chose qu'il définit lui-même comme des mots-matières. Qu'est-ce que c'est qu'un mot-matière ? Il dit, c'est simple, vous voyez, là, Fabrice Drouel, on est autour d'une table. Eh bien, lui, il dit, si vous écrivez table, on ne sait pas ce que c'est. Mais si vous dites un bureau, on sait ce que c'est. Ce n'est pas une table de salle à manger, ce n'est pas une table de cuisine,
c'est
un bureau. Eh bien, ça, c'est un mot matière. C'est pour ça qu'il utilise très peu de mots, qui sont très simples, mais chaque mot est d'une grande densité. C'est ça, le style Simenon.
Est-ce qu'il y a une oralité dans son écriture ? Je pense à ça parce que plusieurs grands acteurs ont interprété Maigret.
Je suis en train actuellement d'adapter du Simenon pour le théâtre, pour France Culture. Parce que j'y crois beaucoup. Il n'a pas du tout été exploité au théâtre.
Mmh.
Alors, le plus important dans l'oralité, ce que vous avez appelé l'oralité de Simenon ou de Maigret, c'est le silence. Puisqu'on parle de Maigret.
Et c'est un langage au théâtre,
c'est
le silence.
C'est pour ça
puissant.
Que pour moi, les grands Maigrets de cinéma, c'est Charles Laughton, et c'est Harry Bore, et c'est un petit peu Jean Gabin aussi, mais surtout Bruno Kremer. Bruno Kremer parle pratiquement pas, ou très peu, dans ses Maigrets. Mais ses silences sont tellement éloquents, et ça, c'est l'oralité de Simenon.
Le silence est un langage au théâtre, on l'a dit, donc pour vous, ça doit être un travail extrêmement agréable et riche de l'adapter au théâtre. Difficile aussi.
Quand c'est Maigret, oui. Quand c'est Maigret, c'est particulier. Alors quand c'est d'autres Simenon, c'est autre chose parce qu'il y a des dialogues, il aime faire dialoguer les gens, mais encore une fois, vous savez, la phrase simenonienne, c'est sujet, verbe, complément. Il y a pas... La plupart des mots, même la totalité des mots qu'il emploie, sont des mots que tout le monde comprend. Mais en même temps, n'oubliez pas que Racine a écrit toutes ses pièces avec moins de 1000 mots.
Absolument. On va terminer, Pierre Assouline, il nous reste une minute, ça passe vite, hein, avec l'incontournable comparaison. Alors, je ne sais pas quelle sera votre réaction à cette question. Simenon, Frédéric Dard, Georges Simenon. Alors, comment vous positionnez-vous ces deux-là, quand même ?
Eh bien, c'est très simple. Ouais. J'étais très lié à Frédéric Dard. On s'est connus grâce à Simenon. Dans une émission de radio RTL où je l'avais invité à parler de Simenon. Il y a très longtemps, une amitié était née. Et quand ma biographie est sortie, il est venu en parler. Dard, c'était l'élève. Simenon, c'était le maître. D'abord, une question de génération. Quand Frédéric Dard a commencé à Lyon à écrire juste après la guerre, il a envoyé son premier livre à Simenon en lui disant « Maître, j'attends votre jugement ». Alors, je lui ai posé la question que vous me posez, Fabrice Drouel, et sa réponse a été celle-ci. Dard est un sous-Simenon, mais Simenon n'est pas un sous-Dard.
Ça va être le mot de la fin. Ça fera plaisir à Jérôme Garcin, du Masque et la Plume de France Inter, qui est un spécialiste de Frédéric Dard et qui était l'un de ses amis. Et on se retrouve tous autour de ces deux-là, Dard et Simenon. Merci, merci infiniment, Pierre Assouline.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles de Patrick Légibel
et Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Georges Simenon, L'homme aux 10 000 femmes de Gérard Levoyer. Avec dans le rôle de Georges Simenon, Éric Herson-Macarel, Maigret Yves Pignot, Marie-Jo, la fille de Simenon, Mélissa Barbeau, Henriette, la mère de Simenon, Anne Benoît, Joséphine Baker, Chloé Baker, ainsi que les voix de Camille Forgerie, Cyril Texier, Martial Jacques. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Jean du Cimetière. Assistant à la réalisation, Clémence Bûcher et Lélio Ploton. Réalisation, Pascal Deux.